Karim, t'es le premier.
Karim,
hein.
De s'asseoir.
Non, mais t'es... non, pour dire, t'es le premier, donc c'est pas le moment d'aller pisser, quoi.
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Qu'est-ce qu'il dit?
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le premier podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets afin de les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, pour vous divertir, j'ai avec moi Camille.
Bonsoir.
Camille qui nous parlera...
De la prostitution, on va parler des putes, de tout lieu, de toutes conditions et de tous horizons. Bref, des putes, quoi.
Ça commence bien.
Avec nous aussi Hicham.
Salut.
Qui boira principalement du whisky.
La passion.
Karim.
Salut.
Qui nous parlera de...
De Léo Fender.
Et d'une petite surprise, il me semble.
Ah oui, c'est vrai. Une petite surprise, il me semble.
D'accord. On va laisser la surprise, du coup, de Monica.
Salut.
Qui cassera les yeux, voilà, globalement.
Bien.
Et de Juan.
Oui.
Qui nous parlera de...
Je vais vous parler de l'art et du design et de leurs différences.
Très bien.
Et toi, Yas, de quoi est-ce que tu vas nous parler?
Eh bien, moi, je vous parlerai du hacking et des hackers.
Si on parlait de...
Hendrix vient de se retourner dans sa tombe. Alors moi, je vais vous parler de Léo Fender, un monsieur né en 1909. Déjà, est-ce que son nom de famille vous dit quelque chose?
Oui.
Oui.
Allez-y.
C'est pas un
les guitares.
Mec qui fait des sitars.
Ah, les guitares. C'est exactement ça. C'est un mec qui a créé une boîte qui s'appelle Fender et qui fait principalement des guitares électriques. La guitare électrique la plus connue qu'il a créée, c'est la Stratocaster.
On le savait.
Popularisée par...
Jimi Hendrix.
Par Jimi Hendrix. Anecdote sur Jimi Hendrix.
Il était noir.
Il est mort étouffé dans son vomi.
Mais quelque chose qui se voit moins, c'est que le type était gaucher et qu'il jouait avec des guitares de droitier parce qu'il n'avait pas les moyens à l'époque, quand il n'était pas à Woodstock et compagnie, de s'acheter une guitare pour gaucher. Du coup, il a juste retourné sa guitare et inversé toutes les cordes. Mais du coup, c'est hyper relou parce que t'as tous les boutons au-dessus et le câble qui te passe par-dessus. Visiblement, ça l'a pas trop gêné.
C'est extrêmement radiophonique.
Oui,
c'est pour ça qu'il jouait principalement derrière sa tête. Comme ça, le fil ne passait pas devant lui.
Donc, Léo Fender, le type, il était vraiment chaud parce qu'à 16 ans, il a créé sa première guitare, non électrique à ce moment-là. Et vu qu'il avait une vie vraiment très rock'n'roll, il a enchaîné sur des études de, à votre avis?
Musicologie.
Comptabilité.
Comptabilité. Exactement.
Je l'ai pas fait exprès. Mais ça m'intéresse vachement parce que Léo Fender, en fait, je connais pas trop mal les guitares, mais je connais rien de ce mec. Je m'en rends compte.
Ouais, c'est vrai, pareil.
Ben, il a un parcours assez atypique. Donc, il a fait des études de comptabilité, mais ensuite, il a bossé dans une boîte un peu de débauché. À votre avis, dans quel milieu
IBM.
Il a fait de la compta?
Les feuillages.
Alors, en 1909, vu qu'il est né à ce moment-là, il n'y avait pas IBM en 1929. Donc c'était pas ça. Jackie et Michel non plus. Non, la boîte c'est la Compagnie des Chemins de Fer. Après avoir passé quelques années dans cette Compagnie des Chemins de Fer, il a perdu son travail. J'ignore la raison, c'était pas écrit sur Wikipédia, okay. J'ai pas eu le temps de chercher.
Professionnalisme.
Il a fait de la compta dans une boîte qui vendait des objets. Quel type d'objet à votre avis?
Mais c'est un quiz
sextoy.
Ouais, ouais, bien sûr. C'est pour situer un peu le mec.
Je pense que les sextoys n'étaient pas hyper populaires à l'époque.
On est un peu dans le thème du sextoy au niveau de la matière.
Une boîte qui faisait du caoutchouc, du coup.
Oui.
J'imagine. Des équerres.
Des pneus.
Des pneus.
Alors, Léo Fender vendait des pneus. Et après, quand même, il a fini par se diriger vers la musique. Et il a principalement travaillé dans l'amplification. À votre avis, quel type de manifestation a-t-il amplifié?
Moi, je dirais des trucs politiques.
Des manifestations religieuses.
Oh,
non.
Donc, c'est Léo Fender, c'était
encore
le mec
plus sexy.
Qui débarquait avec les enceintes pour l'église, qu'il a branché à l'orgue.
D'accord, mais j'ai pas compris.
C'était son taf.
Il créait pas les enceintes, il était en tant que technicien, en fait.
En tant que technicien,
d'accord. Il était un gesson, quoi.
Ouais.
Mais pour église.
D'accord.
C'est clair. Je savais pas qu'un orgue avait besoin d'un ampli.
Oui, normalement, c'est les tubes qui font le... Ouais.
Ouais,
ouais, mais j'imagine que
il y avait la chorale.
Il devait avoir des instruments.
Oui,
il y avait déjà le Godspell à l'époque, déjà, aux États-Unis. Oui, bon, merci.
Il a quand même fini par créer sa boîte Fender. Et la première guitare électrique que Fender a créée, c'est la première guitare à caisse pleine qui s'appelle la...
Télécaster.
Bravo! Je vois que monsieur est vraiment très calé sur le sujet.
Merci.
Qui est encore vachement utilisé aujourd'hui.
C'est ma préférée.
Eh bien, j'en possède une fausse parce que la vraie coûte trop cher. Donc, petit moment culture, guitare à corps plein, pas de caisse, un micro. Et Léo Fender, j'abrège, hein, est mort en 1991, un truc comme ça. Et une anecdote à son sujet, c'est qu'il n'a jamais appris à jouer de guitare de sa vie. Donc le type a passé son temps à faire de la compta, des pneus. Il a mis du son dans les églises, après il s'est dit tiens, je vais faire des guitares, mais il a jamais appris à en jouer.
Mais comme... il a fait sa première guitare à 16 ans, mais pour quelle raison il a fait ça s'il savait pas en jouer?
Pour choper des meufs, c'est obligé.
Je n'en ai aucune idée, c'est une très bonne question. Je te donnerai la réponse la semaine prochaine, parce que c'est complètement incohérent.
J'ai une anecdote qui a peut-être pas grand-chose à voir, mais j'avais peut-être que t'as la réponse. J'avais cru lire que le guitariste de Queen avait fabriqué sa guitare avec l'armoire de sa grand-mère.
Je crois que c'était le piano. Mais il y a piano, un truc comme ça. Ouais.
Comme quoi ça se déforme. Mais est-ce qu'il y a un truc comme ça ou pas?
Familial, ouais, parce que son père était ingénieur en fait.
D'accord.
Et du coup, il s'est dit allez, tiens, mon fils, on s'en fout, on va pas aller acheter des guitares à Léo Fender là, parce qu'il fait des trucs chelous dans les églises, viens. Ils ont pris le piano, ils l'ont pété, et ils en ont fait une guitare. Et c'est toujours la guitare avec laquelle il joue actuellement.
D'accord. Enfin, ouais.
Ah, si, si, Brian May.
Oui, c'est vrai, il joue toujours
actuellement.
C'est vrai.
Confondons pas avec Freddie Mercury.
Absolument. C'est bizarre parce qu'ils auraient pu juste vendre le piano et acheter une guitare.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup moins stylé pour raconter les anecdotes en podcast après. Peut-être que les mecs, ils avaient anticipé le truc. Ils se sont dit, attends, mon fils, tu vas voir. Tu vas devenir quelque chose, on va parler de toi.
C'est quand même bien.
Et c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté avec cette
attention.
C'était
formidable. Merci, Karim.
J'ai pas trouvé de meilleure fin.
Du coup, si je me trompe pas, on va passer à Camille qui va nous parler des.
Oh. Dis-nous ce que tu penses de la prostitution.
Pute !
Oui, c'est très bien résumé. J'aime beaucoup. Alors voilà, on va parler effectivement des putes. Alors avant qu'on en parle, est-ce que vous pourriez me donner vous des synonymes de putes ?
Salope.
Péripatéticienne.
Alors péripatéticienne par exemple.
Fille de joie.
Fille de joie. Alors,
femme de travail.
Femme de travail, pas mal.
Alors, rousse.
Ta
oui.
mère.
Pardon, je suis désolée.
Ou pas. Alors moi en fait j'ai fait une petite catégorie étymologie. Par exemple, il y a catin.
Catin, et ça vient d'où Catin d'ailleurs?
Ça vient de Mylène Farmer.
Tout est
non,
chaos.
Non, c'est le diminutif de Catherine. Voilà.
C'est vrai?
Oui, ouais, c'est vraiment ça. Donc spéciale dédicace à ma mère.
Pardon, maman.
Pardon, maman, exactement. On a également Ribaude. Ribaude.
Ribaude, je connais
oui,
pas ça.
Vous connaissez
non.
pas?
Non.
Oh, espèce de Ribaude.
Ribaude du trottoir.
De quoi? Non, mais c'est
où est-ce que tu habites?
Je viens de Franche-Comté, je dans vous le rappelle. Passé. Voilà, donc j'habite un peu dans le passé, effectivement. Ribaude. Non, en fait, c'est un vieux terme pour dire pute, en fait, tout simplement. Et ça vient de ribaud. Et les ribauds, en fait, c'était une milice de police à Paris au Moyen-Âge. Et comme elle suivait, enfin, les meilleurs clients, en tout cas, c'était la police, pardon de le dire. Eh bien, du coup, bah, on les appelait les ribaudes. Voilà. On a également putain. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Qui vient du mot latin putere, qui veut dire puer.
Ok.
Sympa.
Voilà.
Parce alors, qu'elle après, sentait de la chenec, j'imagine.
Bah, alors, oui, bah, ça... oui, on imagine bien. Oui, merci.
Je suis pas allée chercher, mais après, voilà, on en a plein d'autres. Hein. Coureuse de remparts, fille à soldats.
Coureuse de remparts, ouais,
c'est
chouette.
Rempart,
et les remparts, c'était pas réservé aux soldats?
Ben, c'est peut-être un lien, oui, effectivement.
Non, je sais pas, c'est complètement random, parce que
mais,
je sais pas
si visiblement, c'est... voilà.
Oh, les soldats sont pas très loin.
Exactement, hein, au Moyen-Âge, qui dit soldat, souvent, qui dit pute. Et donc, justement, là, on va.
Ça fait un bon t-shirt. Qui dit soldat, qui dit pute.
On va s'intéresser du coup un petit peu à l'histoire de la prostitution. Alors, j'ai pas la prétention de vous faire une histoire complète de la prostitution, parce que là, la nuit n'y suffirait pas. Hein, donc, je me suis cadrée essentiellement sur la France, c'est déjà pas mal. On va commencer avec le Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, à votre avis, est-ce que la prostitution, c'est plutôt bien vu ou pas du
tout ? Je pense qu'ils s'en foutaient au Moyen-Âge. Ça, à mon avis, ils ont commencé à mépriser ça peut-être plus tard, non ?
Qu'est-ce que tu appelles bien vu par les gens, la
alors,
profession,
par l'Église,
d'y aller,
par l'opinion publique en général. Est-ce que
ils sont rappelés que la mère de Jésus était une pute, si je dis pas de bêtises.
Non mais
Foula.
Ah, il fait pas que boire du whisky.
Déjà trop bu.
Non mais alors
à mon avis c'était chaud quand même. Hein.
C'était chaud alors.
Ouais, je pense que si t'avais 2-3 gosses et que tu faisais pute le soir.
Disons qu'en fait c'était plus toléré que ce qu'on peut penser. Pourquoi ? Parce que la prostitution au Moyen-Âge en fait ça va être un outil politique. Les rois et même les prêtres vont s'en servir. Ils vont se dire oh, on préfère qu'il y ait des putes plutôt que les hommes deviennent homosexuels.
Ah
exactement.
Habile.
J'ai complètement compris le lien entre les deux. Mais juste au cas où, est-ce que tu peux quand même réexpliquer ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on est convaincu que si les hommes n'ont pas un moyen, les hommes non mariés n'ont pas un moyen d'aller voir une femme, et ben du coup, ils vont se tourner vers les mecs.
Ah, ouais. D'accord, ok.
La philosophie médiévale. Ou les enfants. Alors après, au Moyen-Âge, on n'a pas la même vision de l'enfance que chez nous, hein, c'est-à-dire qu'on a des mariages qui débutent à l'âge de 8 ans et demi. Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que ce n'est pas un enfant ?
Difficile à dire.
Donc, la prostitution, elle est interdite à partir de 1254. Alors, ça, c'est une date que vous ne retiendrez absolument pas, mais
non,
je vous l'offre.
Non, ça correspond à quelque chose,
quand même. Non, pas du tout. C'est l'année où on interdit la prostitution en France.
Non, il y en a marre. Maintenant, c'est le bordel, on arrête.
Voilà. Non, non, c'est le roi Saint-Louis canonisé qui a décidé de faire interdire la prostitution. Mais il va devoir la remettre à l'ordre du jour, étant donné que ses soldats ne veulent plus partir en croisade, étant donné qu'il n'y a plus de putes pour les accompagner.
C'est génial.
Et donc, l'État va financer 13 000 putes.
C'est l'équivalent des tickets resto à l'époque.
L'État va financer 13 000 putes pour les accompagner en croisade quand même. Donc il y a 13 000 prostituées parisiennes qui vont partir à Jérusalem.
Parisiennes.
Ouais, parisiennes. Bah oui, ça partait de Paris. Alors au
Moyen. Mais t'étais d'accord ou pas?
Ah bah oui, ça faisait du flou, ça faisait du voyage, c'était sympathique.
Voilà. Bon moyen de voyager gratuitement.
Ça faisait du voyage, mon gars. Capitaine train.
Ils avaient probablement pas tellement le choix.
Capitaine traîné, oui.
Oh, merci. Très bonne blague.
Ça c'est beau. Le Moyen-Âge, c'est également la période où apparaissent les bordels. Alors aujourd'hui, le mot bordel, oulala, c'est vilain, c'est un petit peu vulgaire. Mais les bordels, en fait, à la base, ça signifie maison close. Et en fait, au Moyen-Âge, on s'est dit, bon, ben, on tolère la prostitution, mais on va l'encadrer un petit peu. Et on va essayer de pas la mettre dans les villes. Parce que c'est pas très bien que les enfants, etc., puissent voir des prostituées quand même, c'est un petit peu vilain. Mm-hmm. Donc
c'est
en fait.
C'est un débat qui revient un peu aujourd'hui. Enfin.
Oui. Je suis plutôt d'accord. Bah, de toute façon, la prostitution, encore aujourd'hui, elle est en périphérie. Hein. Il suffit de voir à Paris, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, etc. Il y a peu de prostitution dans les villes. Et donc, en fait, les bordels, elles, en vieux français, ça, c'est le diminutif d'habitation. Donc, bordel, c'est les habitations des bords. Donc, c'est les maisons des bords.
Ah, d'accord.
Ça vient de là, tout simplement, bordel.
Donc, c'est les maisons de banlieue où c'est un peu chaud.
Exactement. Okay. Donc, toi, tu habites dans un bordel, par exemple.
Ouais, j'allais dire, à l'époque, Montreuil, c'était un bordel.
C'est un peu le bordel, comme dans ma chambre, voilà. D'ailleurs.
Et il y avait, en fait, des rues au bord. Alors, moi, j'ai pris l'exemple de Paris, qui étaient dédiées au bordel. On n'y trouvait que des bordels. Et donc, du coup, elles avaient des noms qui étaient assez explicites. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la rue Marie Stuart, qui, à l'époque, s'appelait la rue du Tire-Vie. Donc là, on est toujours au Moyen-Âge.
Ah, voilà la subtilité.
On a la rue Beaubourg, qui était la rue Trousse-Putain.
Ah.
Voilà.
Au moins, c'était direct. Parce que tu troussais les putaines.
Oui.
On a la rue du Petit Musc qui est dans le Marais. Voilà, ça veut dire pute imus en fait, et ça veut dire que les prostituées s'y cachaient. Voilà, les petits mus.
Rien à voir avec le houmous.
Et ma préférée, la rue du Pélican dans le premier arrondissement, qui était la rue du Poil au Con. Voilà, c'est vraiment génial. Hein. Voilà.
J'ai une question. Donc, pas de ticket de métro au Moyen Âge. Pas de métro au Moyen Âge.
À Reims, il y a une rue qui s'appelle la rue Passe-Demoiselle. À ton avis, est-ce que ça a un lien ?
C'est fort probable. Dans les vieilles villes françaises, Reims en est une, il y a forcément des anciennes rues à putes qui ont plus ou moins gardé leur nom. Donc, je vous invite tous à vous renseigner éventuellement sur vos villes d'origine pour savoir si pute ou non il y a.
Je suis assez fan de la ressemblance entre Pélican et Poil au Con au niveau
de la
consonance.
C'est génial. Mais oui, en fait, ça a été fait. Ça, c'est à la Révolution française. En fait, les gens ont dit on ne veut plus habiter rue du Poil au Con. Et donc, on a décidé de renommer la.
Mais ils ne voulaient pas perturber les locaux. Ils ont voulu changer, mais juste un peu.
Genre, exactement.
On va mettre Pélican.
Et donc, si vous passez rue du Pélican, bon, bah, vous y penserez maintenant. C'est la rue du Poil au Con. Voilà, alors.
Génie.
On va changer un petit peu de période. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que après, à la fin du Moyen-Âge, en fait, il y a quelque chose qui apparaît. 1492. Si je vous dis cette date, est-ce que ça vous parle? C'est une date qu'on a appris à l'école.
492.
La découverte de l'Amérique.
Exactement. Ah ouais, et vous allez voir, c'est facile à retenir.
Colomb, les putes.
Non, c'est également la découverte de la syphilis. Voilà.
Ah.
La première MST connue. Donc, du coup, autant vous dire que la prostitution, elle perd un petit peu en popularité. Même si on a déjà des moyens de contraception à l'époque, on a les préservatifs en panse de chèvre.
Mes préférés,
sympa.
Exact. Et les femmes se mettaient des éponges également à l'intérieur.
D'accord. Oui, je comprends pas quoi ça prévient la syphilis.
Non, mais c'était les moyens de contraception de l'époque. Mais en tout cas, on n'avait pas en tout cas de moyens d'arrêter les MST.
Il faut absolument faire un sujet à propos des moyens de contraception à travers les âges.
Oui.
Eh bien, on va y réfléchir. Mais moi, je suis motivée. Pourquoi pas.
De toute façon, c'est trop tard maintenant, c'est dit.
Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Il faudrait creuser. Et donc, à partir de ce moment-là, au milieu du XVIe siècle, on va interdire la prostitution. Donc, on va chasser toutes les prostituées de Paris. Et ça va durer un peu plus de 200 ans. Et elles vont avoir tout un tas de petits soucis. Par exemple, sous le règne de Louis XIV, il va y avoir une ordonnance comme quoi on dit que toute prostituée qui sera trouvée aura le nez et les oreilles tranchées.
C'est pas terrible pour attirer les clients, ça.
Non, hein, c'est pas sexe.
Et ça n'empêche pas de faire la chose.
On a
ça augmente même les possibilités.
Ouais. Oh. On va quand même avoir à Paris un endroit où on trouve des prostituées. C'est au Palais Royal. C'était le seul quartier en fait de Paris où les prostituées avaient le droit d'exercer.
Le quartier du Palais Royal.
Le quartier du Palais Royal et d'accord. Notamment le jardin du Palais Royal. Et du coup, autant vous dire qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent à Paris pour aller voir les putes du Palais Royal parce qu'elles sont interdite dans tout le reste du royaume. Et donc, on va faire un genre de guide du routard à la Révolution française qui recense toutes les prostituées du Palais Royal. Donc, ça s'appelle l'almanach des demoiselles de Paris. Et donc, c'est le calendrier du plaisir.
Je trouve ça absolument génial. Vous ne savez pas parce que vous écoutez, mais Camille tient une photocopie de l'almanach des putes.
On la mettra sur Facebook.
C'est un papyrus. Hein.
Voilà, mais je pourrais vous l'offrir si vous la voulez. Mais voilà, contenant leur nom, demeure, âge, taille, figure et autres appâts. Donc autant vous dire qu'on y trouve. Donc il y avait les prix et il y avait même
Girl, quoi.
Exactement. Il y avait même les maladies qu'elles avaient déjà eues.
Le pédigré total.
C'était pute advisor.
Exactement. Alors au final, il va falloir attendre Napoléon en fait pour que les prostituées aient le droit à nouveau d'exercer de façon légale en France. Étant donné que dès qu'il est empereur, deux jours après son sacre, eh bien il autorise la réouverture des maisons closes.
Voilà. Il faut un sens des priorités dans la vie.
Exactement.
Pour moi c'est important.
Exactement. Je pense aussi. Donc en fait, il va permettre aux prostituées de travailler toutes seules et il va permettre également de réouvrir des bordels. Donc les bordels, il y en a un qui est assez célèbre au 19e siècle qui s'appelle le 122 parce qu'il était situé au 122 rue de Provence. 122, c'est des bilingues.
Ils appelaient déjà ça en anglais à l'époque.
Yes, parce qu'il y avait des touristes étrangers qui venaient énormément. On a eu plusieurs rois d'Angleterre, Édouard VIII, etc., qui sont venus au 122. Et le 122, j'ai beaucoup aimé, proposer un forfait tour du monde.
Ah, je vais te faire voyager.
C'est génial.
Parce qu'en fait, il y avait des chambres à thème. Donc, le tour du monde comprenait, en fait, une nuit, on pouvait aller dans toutes les chambres. Donc, il y avait la chambre des tortures, la chambre Orient Express avec des sons de train enregistrés. Voilà. Oh, la chambre grenier à foin.
À l'époque, ça devait être tellement bien.
La chambre igloo. Et je pense que ma préférée, c'est la chambre corsaire avec un lit à baldaquin qui tangue et des... Et des personnes qui vous jetaient de l'eau salée.
Ouais, avec des... Vraiment?
Voilà. Ah non, mais de l'eau salée quand tu niques, non.
Je reviens sur le fait qu'Ilias a pas fait de bruitage pour la chambre igloo. On serait curieux d'entendre quelque chose.
Oh là là.
Stop, ça c'est les schtroumpfs.
Les schtroumpfs.
Reprends.
Et alors, le 19e et 20e siècle, ça s'arrête pas seulement à des prostituées qui travaillent en bordel, on a également des prostituées qui travaillent pour elles. J'ai un exemple assez sympathique.
Des freelances.
Marguerite Steinheil, exactement, qui est une freelance de la prostitution, qui est une dame qui va bosser à la fin du 19e, début du 20e siècle. Et elle a un client super célèbre, notamment en...
Le RSI.
En 1899, non, Félix Faure. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ah oui, bah oui.
Station de métro,
voilà.
Non.
Alors Félix Faure, je ne résiste pas à l'idée de vous en reparler. Donc Marguerite Steinheil a pour client le président de la République, tout simplement, et un beau soir va le rejoindre à l'Élysée. Alors Félix Faure, qui était un monsieur qui avait déjà une bonne cinquantaine d'années, du coup prenait du Viagra, qui existait déjà, donc c'est sous forme de petites gouttes qu'on mettait dans un verre d'eau.
On est en quelle année, rappelle-moi ?
On est en 1899.
D'accord.
Ils sont foutus de notre gueule, Pfizer, en fait.
Qui ça ?
Pfizer.
C'est la boîte qui a fait le Viagra ?
Ah. Ah.
Et il prend son petit Viagra, et là, il s'apprête à recevoir sa maîtresse, et là, on lui annonce qu'il doit recevoir un archevêque, que c'est très 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 important, donc du coup, il va à son rendez-vous, donc vous imaginez qu'il a dû passer une heure assez longue. Et au final, quand l'archevêque se décide à partir, eh bien, l'effet du Viagra a disparu, donc il en reprend, sauf qu'il était cardiaque, ce monsieur. Exactement.
Oh,
et lorsqu'il reçoit Marguerite Steinheil, celle-ci lui fait une petite fellation, et là, poum, il meurt, et elle est...
De sa belle mort, du coup.
Voilà, mais il meurt dans sa bouche. Et il avait
mec généreux jusqu'au bout.
Il
quoi.
Avait la main qui lui serrait les cheveux, donc on a dû à elle lui couper des mèches de cheveux pour la dégager.
Oh.
Donc c'est quand même horrible. Bah, elle est partie par la petite porte de l'Élysée.
Mais du coup, ça va pas être confortable pour alerter en fait.
Je pense que les murs de l'Élysée s'en souviennent encore.
Oh, je cours.
Et du coup, on s'est dit, on va
quelle essayer. Quelle horreur!
On va essayer de c'est cacher l'affaire, parce que vous imaginez, demain, François Hollande qui meurt de ça, ce serait quand même. Enfin, je pense que ça ferait du bruit dans les chaumières.
Ouais, déjà, rien que le scooter, c'était un peu chaud pour lui.
Exactement,
tout le monde s'en fout,
donc là,
François Hollande, mais...
mourir dans les bras d'une pute, ça fait quand même du bruit. Et on l'a fait sortir par une petite porte de derrière. Et le lendemain, bon, bah, la nouvelle a été ébruitée. On a les journaux qui ont titré Marguerite Steinheil, #, la pompe funèbre.
Oh!
Déjà, à l'époque, les journalistes avaient beaucoup d'humour.
Et ah, on a Clémenceau, qui était l'ennemi politique de Félix Faure, qui a eu plusieurs petites phrases. Il a dit notamment, il a voulu être César, il a fini pompé.
Bravo.
Voilà, et il a dit ça quand même à l'Assemblée nationale devant les députés. Moi, je trouve ça plutôt magnifique.
Génie.
Voilà, et tout ça pour vous dire qu'au final, les maisons closes et la prostitution, enfin le racolage en tout cas, ça va être aboli en France. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça abolit les maisons closes ? Quand est-ce qu'on ferme officiellement les maisons closes en
France ?
Aucune
idée.
Après la Deuxième Guerre mondiale, non ?
Après la Seconde Guerre mondiale, exactement, en 1946. Étant donné que tous les bordels des grandes villes de France avaient été réquisitionnés par l'armée allemande, et donc les prostituées des maisons closes ont été accusées de collaboration avec l'ennemi allemand. Donc elles ont fait partie en général des grandes périodes
des
de
grandes
rafles.
Des grandes victimes.
Exactement.
Sympa,
et Marthe Richard, une ancienne prostituée qui s'est reconvertie dans la politique, a décidé, bon, c'est pas incompatible, hein, a décidé de faire une loi pour faire fermer les maisons closes.
De toute façon, on sait que 46. La politique, c'est un métier de pute. Donc,
Oui, ah, c'est vrai. C'est vrai.
Marthe Richard, c'est pas elle qui avait été aviatrice également, qui a une histoire totalement folle.
Je sais pas.
Il
peut-être.
Me semble.
Bah, alors, elle a une vie bien remplie, cette petite dame, parce que pute politicienne et aviatrice. Mais c'est pas
oui,
incompatible.
C'est correct.
C'est gagnant.
Alors, je me trompe peut-être, non, mais il y a une femme qui avait été pute dans le passé, malgré elle, évidemment, et qui avait effectivement milité pour interdire la prostitution.
C'est peut-être elle. Ça. Moi, c'est pas impossible.
D'accord.
Et voilà.
Bravo.
Merci beaucoup.
Merci Camille.
C'est fort intéressant.
Et du coup, Ilias, maintenant, c'est toi qui vas nous parler, si je dis pas de bêtises, de nos amis les hackers.
Exactement.
Formidable.
Alors effectivement, je vais vous parler de hacking et des hackers. Alors déjà, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un hacker ?
Quelqu'un qui hack.
Merci.
Alors, je rigole, mais oui.
Très bien. Non, un hacker, bah, une personne qui va rentrer de manière... C'est un cambrioleur numérique. Je dis une connerie, parce que le hacking, j'avais vu une ou deux conférences là-dessus, ça s'applique pas seulement à l'informatique, on peut hacker en fait un objet, c'est-à-dire détourner l'utilité de quelque chose pour en faire autre chose.
Exactement. C'est ça.
Il y a une grosse notion de débrouiller.
Même si c'est pas un produit électronique.
Exactement.
Ouais, alors, apparemment.
C'est un peu comme carhacker.
Non, ça c'est carjacker ça.
J'approuve.
Je m'en suis fait carjacker.
Tentative.
Fail.
Alors donc le mot hack a été utilisé pour la première fois en 1959 dans un petit dictionnaire édité par le TMRC, le Tech Model Railroad Club, qui est une des... Alors c'est une des, plus anciennes associations du MIT.
Tu peux répéter le Tech Model?
Le Tech Model Railroad Club.
D'accord.
Donc c'est une association de passionnés de modèles réduits de trains et de maquettes.
Quel rapport?
Oui.
Et là, ne vous moquez pas, chacun
l'association existe encore. Ils ont fait des portes ouvertes en avril. Et donc effectivement, donc ils sont passionnés de ça. Et pour eux, un hack, en fait, c'était une solution ingénieuse qui avait pour but de résoudre un problème sans pour autant forcément respecter les règles de l'art. Mmh. Donc, de fait, un hacker, c'était simplement la personne qui mettait en œuvre un hack. Donc pour vous parler des hackers et de leur histoire, je vais vous présenter quelques-uns des hackers les plus illustres. Donc j'ai commencé par donc cette histoire, je vais la commencer aux USA en 1970 avec celui qu'on considère comme le père des hackers, John Draper, aka Captain Crunch. En fait, cette personne a réussi à hacker le réseau téléphonique grâce à un sifflet offert dans des boîtes de céréales. Donc c'était les céréales.
Le il avait reproduit le signal du téléphone avec.
Exactement. En fait, en bouchant un des trous du sifflet, le sifflet émettait un son à une fréquence de 2600 Hz, ce qui correspondait en fait au signal qui permettait de libérer une ligne téléphonique et de passer un appel gratuitement. Donc John Draper, ce qu'il faisait en fait, cette discipline, elle était appelée du freaking, donc c'est la contraction de phone et de freak, qu'on peut traduire en anglais par marginal. Il a simplement été contacté par des gens qui avaient essayé ce genre de choses, et justement parmi ses amis, parmi ses proches, il avait plusieurs amis aveugles, dont un certain Joe Egrecia, un aveugle de naissance surdoué et doté de l'oreille absolue. Et en fait, cette personne avait la capacité de contrôler le réseau téléphonique uniquement en sifflant dans le combiné.
Oh, énorme. Sérieux.
Tellement il maîtrisait sa voix et les fréquences avec lesquelles sa voix...
Exactement. Donc John Draper n'était pas forcément bon siffleur, mais il était électrotechnicien. Du coup, il a créé la première Blue Box. En fait, c'est une boîte qui permet d'émettre les bonnes tonalités pour contrôler le réseau téléphonique. Donc à partir de là, le freaking, ça devient un vrai mouvement et ça s'organise. Donc les freakers se retrouvent dans des conférences téléphoniques sur des lignes qu'ils se sont réservées. Et là, il y a en fait les premiers chats, le premier réseau social, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent pour parler de tout et de rien. Et on organise même des conventions pour échanger sur les dernières techniques. Donc il y a déjà un esprit de partage, mais aussi de protection de l'anonymat, étant donné qu'à l'entrée de ces conventions, on distribuait des masques pour que chacun puisse protéger son identité.
Putain, ambiance Eyes Wide Shut, quoi.
Mmh.
Mais pour pirater les téléphones.
Mais il y a des images, si vous cherchez bien. Et effectivement, c'est assez ridicule. pull parce qu'il y a des barbus avec des vestes un peu dégueulasses qui échangent avec un espèce de loup. Donc ça fait mi-partouze, mi-convention. Donc les Freakers vivent tranquillement dans l'ombre jusqu'en 1971, date à laquelle Ron Rosenbaum, un journaliste, publie un article sur les Freakers et leur méthode, ce qui va vraiment mettre un projecteur sur leurs activités et ça va faire exploser en fait le nombre de Freakers. Et surtout du coup les autorités ont dû réagir. Et donc la réaction a été forcément proportionnelle au nombre de Freakers qui arrivaient. Donc beaucoup de Freakers ont fini en prison, dont John Draper. À sa sortie, il y a un jeune homme qui était fasciné par l'article de Rosenbaum et par la blue box de John Draper. Et cet homme, c'était Steve Wozniak.
Eh oui.
Ah, le mec.
Je me disais bien que la blue box, ça me disait quelque chose. Ils ont commencé avec ça, en reproduisant ce truc-là et en le vendant.
Il faut savoir que ce Steve Wozniak, en fait, ça va être considéré comme un des plus grands hackers de l'époque. Et on va très vite voir pourquoi.
Et toujours aujourd'hui, le mec a un historique.
Voilà, il est considéré comme étant vraiment un génie de l'informatique. Et en fait, ça part de une des premières révolutions de l'informatique. Donc, c'est l'ordinateur personnel. Donc, faut savoir que dans les années 60, un ordinateur, ça coûte globalement le prix d'une maison et ça fait la taille d'un frigo. Mais il y avait déjà une culture de la bidouille dans l'informatique, sauf que c'était assez compliqué de mettre la main sur du matériel. Mmh. Et ça va changer en 1974 avec la sortie de l'Altair 8800, qui est en fait le premier ordinateur en kit à monter soi-même. Donc, il y a eu un gros engouement sur cet ordinateur. Donc, il y a un groupe qui s'est formé un soir de mars 1975 dans un garage.
Précis.
Une trentaine de personnes qui se sont retrouvées et c'est la naissance du Homebrew Computer Club et parmi eux on retrouve justement Wozniak et en fait leur but c'était pas forcément d'avoir des applications pratiques avec ces ordinateurs. Personne n'avait d'utilité réelle à avoir un ordinateur mais leur but c'était simplement de découvrir, d'explorer et de repousser les limites techniques. Et surtout, en fait, quelque chose qui caractérisait vraiment le club, c'était l'esprit de partage. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient toutes les semaines ou toutes les deux semaines et chacun échangeait les problèmes qu'ils avaient eus, les solutions qu'ils trouvaient. Et il y avait un vrai échange là-dessus.
Moi, il y a un truc quand même là-dedans qui me trigger, c'est que tu parles à la fois du partage d'informations, mais aussi du partage de schémas électroniques. Donc, c'est-à-dire que les mecs, à la base, c'est pas comme aujourd'hui où un hacker, c'est juste un mec qui s'y connaît bien en programmation. C'est aussi des mecs qui avaient des compétences électroniques et qui créaient eux-mêmes le matériel qui leur aidait à faire ce qu'ils voulaient faire.
Les mecs créaient leurs propres outils parce qu'en fait, ils avaient des
besoins. C'était full stack.
Ouais.
Alors, c'est même pas aussi, en fait, c'est surtout. C'est-à-dire qu'au début, il y avait juste du matériel. Et une des premières idées de Wozniak, par exemple, c'était de faire un truc par rapport aux informations qui allaient transiter sur ces composants électroniques. Et c'est ce genre de choses qui les faisait avancer. Mais c'est vraiment en fixant des puces les unes sur les autres avec des liens, etc. Et c'est le fait d'améliorer la technique qui leur permettait d'avancer. Mais il y avait, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de code, etc. Le fait est qu'ils partageaient vraiment tout ce qu'ils trouvaient, leurs plans, etc., mais aussi les logiciels des autres et les machines des autres. Non. Et ça ne plaisait pas à tout le monde, puisque le 3 février 1976, ils ont reçu une lettre d'une personne qui était assez mécontente qu'il partage le fruit de son travail, un certain Bill Gates.
Oh.
Je suis pas venu ici pour souffrir, ok.
Il était vraiment pas content, il envoyait une lettre assez acerbe.
Mais il était pas pote avec Apple, du coup, Bill Gates,
ça se... Ah non, du tout, au contraire. Bill Gates a volé les plans d'Apple qu'ils avaient volés à Xerox pour créer son truc de son côté, enfin, c'est un bordel. Si vous recherchez des infos là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des très bonnes séries là-dessus. Il y a un documentaire excellent, j'ai pas le nom en tête, mais
il y
a un docu-fiction qui s'appelle Pirates of the Silicon Valley qui est très très pertinent là-dessus.
J'en ai entendu parler, je l'ai pas vu.
Donc là, il va y avoir une deuxième révolution dans l'informatique, c'est le fait de connecter et de mettre en réseau les ordinateurs. Jusque-là, il y avait beaucoup de bidouilles électroniques, mais donc il y a les entreprises qui vont de plus en plus mettre leurs ordinateurs en réseau, et ça va être suivi par les particuliers. Et ça a beaucoup intéressé les hackers parce que ça fait un nouveau défi. On a bien vu qu'ils aimaient beaucoup les défis.
Et parce que le fait de mettre en réseau, ça veut dire que quand tu touches à un truc, tu peux attendre tout le reste. Donc ça ouvre complètement les portes pour eux, finalement.
Et surtout que tu peux, du coup, par curiosité, essayer de t'introduire sur les autres ordinateurs. Rien de sexuel, bien évidemment.
C'est moins galère, en plus, t'as pas besoin d'avoir un accès physique, et puis ça rejoint le truc avant avec le téléphone où les mecs profitaient déjà du réseau et essayaient déjà de détourner.
Oui.
Ok, merci.
Oui.
Alors parmi eux, parmi ces hackers un peu curieux, on a un certain Kevin Mitnick. Alors d'après lui, je le paraphrase, le réseau informatique représentait l'univers, il avait une soif de découverte et voulait aller là où aucun hacker n'était encore allé. En fait, il voulait aller sur les ordinateurs des autres. Il s'est illustré en faisant plusieurs, on va dire, méfaits. Il s'est introduit sur les ordinateurs de grandes compagnies pour voler principalement de la documentation technique confidentielle. Et il a été arrêté une première fois en 1988 et une seconde en 1995. Donc chaque fois, il a fait un petit passage en prison de quelques années. Il a eu une peine de, il me semble, 4 ans de prison, ce qui, 4 à 5 ans, ce qui est plus que beaucoup de criminels en fait, aux États-Unis. Donc c'était vraiment une très grosse peine.
Mmh. Et c'était par rapport au secret des entreprises, enfin, ce type de peine que peut avoir un employé qui sort d'une boîte avec des informations, c'était le même type de peine, si je dis pas de conneries. Mais...
Moi, je vois quand même pas l'intérêt d'enfermer le type pendant 23 heures et de l'enchaîner pendant une heure, ça va. C'est tranquille, tu le mets dans la cour.
Non, en fait, c'est une absence de gestion. Il y a eu beaucoup de cas comme ça avec les Anonymous ces dernières années. Tu sais, ouais. Il y a eu une énorme montée de ce truc-là, de Anonymous. Et ils chopaient des gamins finalement qui avaient commis des délits, voire bon, on va pas dire des crimes, mais on va dire des gros délits. Et ils savaient pas vraiment quoi en faire. Et du coup, il y a eu beaucoup d'assignations à résidence, de peines de prison dans certains cas, mais c'était très difficile à justifier et ça passait par des délits pénaux qui étaient déjà en place et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils avaient concrètement commis.
Oui, c'est exactement pour ça que je demande la qualification pénale.
Genre des tu t'es connecté, t'as trouvé le mot de passe d'un type, tu t'es connecté, et du coup, c'est genre usurpation d'identité, des trucs comme ça.
En fait, je pense que ça dépend surtout de ce que tu en as fait derrière. Est-ce que tu as revendu des secrets d'État? Est-ce que tu as revendu des secrets d'entreprise? Parce que généralement, ça rentre dans l'espionnage industriel. Tu peux très facilement faire rentrer quelque chose dans l'espionnage industriel.
Ce qui explique les lourdes peines.
Ouais. Oui.
Alors, ça justifie pas le fait d'enchaîner, quoi. Enfin, oui. Il est pas dangereux.
Bah, c'était excessif, mais en fait, c'est motivé par la peur. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore eu de revente, mais les gens avaient peur vraiment qu'il fasse une connerie parce qu'il était expert des téléphones. Donc, il dit, bon, s'il touche à autre chose, il va foutre la merde.
Mm-hmm. C'est sur la dangerosité, en fait.
Exactement. Mais en fait, ce cas est intéressant, c'est pas le seul, mais il est intéressant parce que, en fait, c'est les révélateurs d'une transformation de la société. Donc, on passe d'une ère industrielle à une ère de l'information. On parle aussi de société de l'information. En fait, donc, tout est information et les informations valent de l'or. Il y a beaucoup d'argent, donc les sociétés flippent, ont peur, etc. Et toutes les personnes, à partir du moment où ils ont un ordinateur sur le réseau, ont des informations à se faire voler. Donc, voilà, tout est motivé par la peur. À la suite de ça, donc, il va y avoir une criminalité grandissante dans le monde du hacking. Donc certains hackers du Homebrew Computer Club d'ailleurs qualifient ces pirates malveillants ils les accusent de ne pas respecter l'esprit du hacking.
Ah je vois, c'était les trucs de Black Hat, White Hat.
Exactement. Donc, alors, est-ce que vous savez d'où ça vient, les Black Hat et les White Hat?
Je vais faire ça très manichéen, mais il me semble que les Black Hat, c'est les hackers méchants qui vont aller voler des trucs pour les revendre ou machin. Et les White Hat, c'est les hackers qui vont plutôt faire ça dans un sens positif.
Qui vont essayer de détecter les vulnérabilités, qui vont prévenir l'entreprise.
Mais ces mecs-là sont payés, c'est un peu des chasseurs de primes de faiblesses informatiques, si je dis pas de conneries.
Ah, c'est exactement ça, donc on peut clairement catégoriser ça en les gentils et les méchants. En fait, ça vient des vieux westerns où on représentait les gentils avec un chapeau blanc et les méchants avec un chapeau noir. Donc comme on l'a dit, globalement les white hats, c'est les gentils. Globalement, ils sont là pour alerter et faire en sorte que Internet et le réseau soient un endroit meilleur. Et les black hats, globalement, ce sont les méchants. Leur but, c'est de s'introduire, voler, détruire, etc.
Tuer.
Donc ça va du hacker la petite semaine qui va envoyer un virus à des papy-mamies pour leur voler leurs identifiants bancaires à un groupe de hackers qui pirate directement les banques. Donc on pourra citer notamment le groupe Cabarnak. C'est pas une expression
tabarnak.
C'est pas une expression québécoise, rien du tout. Et en fait, ce groupe sévit depuis 2013. On estime qu'ils ont volé plusieurs millions d'euros jusque-là et qu'ils sont toujours actifs. Donc ils sont discrets et efficaces. En fait, ils ont exploité une faille dans Microsoft Office.
ça doit être très difficile. Mais
qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une histoire de macro ou je sais pas quoi? Tu sais exactement ce qu'ils ont fait ou pas?
Alors, ils ont en fait envoyé un mail à des employés de banque qui a permis d'installer un espèce de cheval de Troie. Globalement, c'est un virus qui permet de prendre le contrôle des ordinateurs.
Sers-toi ton whisky, aucun problème.
Ça me permet.
Bah, tu
donc, ils ont mis des chevaux de Troie, des programmes qui permettent de contrôler les ordinateurs à distance.
Voilà, et en fait, c'est pas ça qui leur a permis de foutre la merde. Ça, c'était un moyen d'observer les employés de banque, de voir leur comportement, comment ils agissaient et comment ils pouvaient et perpétuer leurs méfaits par la suite. Et du coup, en voyant comment ils se comportaient, ils ont pu faire la même chose et reproduire leurs actions et donc virer de l'argent sur leur compte en toute discrétion.
Ah putain, mais c'est hyper organisé, les types.
Ah, mais
il y a des mecs intelligents qui coordonnent tout ça, quoi.
Et ils sont toujours en activité aujourd'hui. on a qualifié leurs actions de casse du siècle. Bon, on entend ça tout le temps avec Ocean's Eleven, etc.
C'est pas les plus intelligents qui se font attraper.
Il y a une grosse différence aussi entre ça et Ocean's Eleven, c'est qu'Ocean's Eleven, c'est un film. Et ça, c'est la vraie vie. Mais
la différence est subtile, mais il y en a une, effectivement. Donc, voilà une nouvelle évolution en 99 où le terme cyberguerre apparaît. On a notamment un des virus les plus connus et les plus élaborés de l'histoire qui s'appelle Stuxnet, qui est en fait une collaboration entre les États-Unis et Israël.
Quand t'as dit le mot que j'ai pas compris, et collaboration, je pensais que c'était un groupe de rap.
Donc en fait, c'était Stuxnet, c'est un virus qui faisait partie d'un programme top secret nommé Jeux Olympiques et qui a été lancé sous l'administration de Bush. Donc il a été détecté en 2010.
Bush père ou fils?
Fils. Et justement, il a été détecté en 2010. Et en fait, le but, c'était, son but, c'était de cibler les centrales nucléaires de Bouchehr et de Natanz, donc en Iran. Et il avait la capacité de contrôler les moteurs des centrifugeuses centrales. Et il a eu un effet ravageur, puisqu'on estime qu'il a ralenti le programme nucléaire iranien de 1 à 2 ans. Donc là, c'est, ça a été vérifié par des sources, etc. Donc ça, il y a vraiment une cyberguerre entre les États. On a un petit cocorico en 2008, puisqu'il y a la création de l'ANSSI en France, donc c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information.
C'est pas la ville ?
Non, non, c'est pas, c'est moins la montagne.
Je viens de
prendre. Non, c'est écrit ANSSI.
Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai dit Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Et ils ont d'ailleurs écrit un livre blanc sur la cyberdéfense en 2013. Un petit fait intéressant, donc à la fin des années 2000, on voit apparaître un nouveau terme encore, le hacktivisme. Donc avec un H, c'est la contraction de hacking et activisme, qui a certainement un groupe très connu que vous connaissez.
Anonymous.
Exactement. Donc leur but, c'est de revendiquer et de militer. Et les Anonymous notamment se sont fait connaître pour leur première grande action qui a été une série d'attaques envers l'église de Scientologie. Mm-hmm. Donc ils ont quand même un bon fond.
Ouais, ils ont eu des gros problèmes avec ça d'ailleurs. C'est là-dessus qu'il y a plusieurs mecs qui se sont trouvés avec des peines de prison parce qu'à l'époque ils utilisaient un logiciel d'attaque. En fait, je me rappelle pas le nom que ça porte quand tu fais un délit de une attaque
DDoS.
Quand tu fais une surcharge de connexion, c'est ça, sur un site web.
Ça arrive souvent sur les consoles, ça.
Ouais. Et ils employaient, en fait, un logiciel, et tous les mecs qui avaient utilisé ce logiciel avaient été repérés, du coup, et avaient été inculpés pour une grosse partie d'entre eux sur cette affaire-là. Ça a calmé beaucoup de monde, en fait.
Mmh. Bah, un des combats, justement, des Anonymous, c'est le fait de militer, ils revendiquent le fait d'utiliser des attaques DDoS, donc déni de service, comme une manifestation numérique. Donc, leur argument, c'est que si on peut manifester devant un bâtiment, une institution, un magasin par exemple, ça en gêne l'accès
et bloquer l'entrée, ouais,
voilà.
Exactement.
Pourquoi on pourrait pas le faire numériquement? C'est un débat qui est encore en place, il n'y a pas encore de réponse, mais c'est vrai que c'est intéressant tout du moins comme ouverture. Pour finir ce sujet, donc je vais finir sur une petite note de transhumanisme avec une des dernières tendances du monde du hacking, donc c'est le biohacking. En fait, c'est un courant au sein duquel les hackers visent à augmenter l'être humain pour lui donner des nouvelles capacités en injectant des composants électroniques directement dans le corps. Donc, par exemple, on peut s'injecter une puce dans la main et s'en servir pour badger le métro, pour se connecter sur son téléphone.
Oh, mmh. La puce GPS.
C'est plus compliqué que ça, le transhumanisme, parce que on bat Oscar Pastorius avec ses jambes de gazelle, c'est du transhumanisme dans un sens aussi. Il s'agit d'utiliser les techniques de l'être humain pour améliorer notre espèce, en fait.
Oui, voilà. Mais il y a notamment le fait de rendre technologique le corps humain. Mmh. C'est une partie du biohacking, effectivement.
Ça me fait penser à certains épisodes de Black Mirror.
Oui, alors, c'est très inspiré de ce genre de trucs.
C'est très inspiré, effectivement, mais c'est pas si loin, parce qu'en 2017, il n'y a pas si longtemps, donc en février 2017, la société belge New Fusion a implanté des puces dans 8 de ses employés, qui étaient volontaires, bien évidemment, sinon c'est bizarre, donc, afin de les identifier et de leur donner un moyen d'avoir accès au bâtiment et de déverrouiller leur ordinateur. Donc ça,
c'est
ça,
vachement creepy, quand même.
Non, mais concrètement, ouais, les mecs, ils avaient une puce RFID sous la peau.
Ouais. Exactement.
C'est ça. Ce que ton sujet ne dit pas, c'est qu'ils pouvaient savoir quand est-ce qu'ils allaient aux toilettes et combien de temps ils passaient aux chiottes.
Mais il y a des recommandations, justement, de la CNIL qui dit qu'à partir du moment où tous les objets vont être numérisés, on va pouvoir traquer tout ce que font les gens et donc savoir tout ce qu'ils ont fait de leur journée, etc.
Eh ben, c'est pas du tout déprimant.
Merci, Ilias.
Alors, je dis un dernier mot. Si vous voulez vous plonger un peu dans le monde du hacking de manière ludique, je vous conseille la série Mr. Robot, qui traite la question de manière très juste et avec une bonne scénarisation, et c'est très intéressant.
On va reparler un petit peu de musique, non ?
Allons-y. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Actualité musicale.
Alors, actualité, dangereux.
Mesdames et messieurs, vu que je me tiens vraiment, vraiment très au courant de l'actualité musicale.
On va parler de Jul, c'est ça ?
On va parler des groupes de musique de notre adolescence. Alors, citez-moi chacun un des groupes de musique que vous avez écouté durant votre jeunesse, et je suis sûr et certain qu'on va tomber dessus.
Mais l'adolescence, c'est quand même large.
Quand 14 ans. Quand t'avais des boutons sur le front.
Ouais. Green Day.
Ouais, y a des groupes bon goût et des groupes mauvais goût de l'adolescence.
Moi, Green Day, non.
J'ai de la Mano Negra et du Noir Désir.
Mano Negra, Noir Désir, non.
Sum 41.
Sum 41, ouais, non. On s'approche, on n'est pas loin.
Chakra LED.
Moi, j'étais très punk rock.
Eh bien, oui.
Ah, ben voilà.
Alors, Camille, peut-être, vas-y, sauve-moi le sujet, là.
Rage Against the Machine.
Non. Alors, je vais élargir un petit peu.
Red Hot Chili Peppers.
Un groupe de punk rock californien et un groupe de nu metal.
Blink 182, Plémo.
Californien, Plémo.
Californien,
Offspring.
Non.
Le nu metal californien.
Putain, vous me cassez les couilles.
Bon. Linkin Park.
Linkin Park. Merci.
J'ai jamais aimé.
Du punk rock, Linkin Park.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas vraiment
du
punk rock.
Il y en a un deuxième de punk rock. avec un numéro dedans, et c'est pas Sum 41.
Blink 182.
Merci.
Mais je l'ai déjà dit, bordel.
Tu l'avais dit?
Oui.
Ah, écoute,
je sais pas, j'ai entendu Mano Negra et je sais pas quoi.
Ouais, mais ça c'était bien avant.
J'avais dit un.
Oui, mais t'es pas.
T'en as dit plein.
J'en ai dit,
pour toi.
J'en ai dit exactement
les
4.
Enfants, on va se calmer.
Attends, mais si on parle du Download Festival, je te signale que Green Day est dedans. Hein.
Alors, on ne parle System pas aussi. Du tout ah, du Download Festival. Pourquoi on parle.
Laissons-le parler. Linkin Park et Blink 182 sont dedans.
Ok, je vais te filer ma feuille, tu vas faire le sujet. Aucun problème.
Non.
Ces deux groupes vont non pas collaborer, mais fusionner.
Quoi?
Non.
Quoi?
Et devinez le nom qu'ils vont avoir.
Linkin 182.
Presque.
Blink Park.
Blinkin Park.
Ah oh, oui. Oh,
je vous jure que c'est oh, vrai.
Non. Le parc oh, du clignement, oui.
Le 28 juillet 2017 à New York City et le 30 juillet 2017 en Pennsylvanie. Vous pourrez assister à un concert de Blinkin Park.
Mais ça va être de la merde.
Je n'ai rien de plus à dire là-dessus.
Ouais, mais je comprends vraiment.
Je vous quitte avec cette information.
Au revoir.
Sinon, dans la catégorie mieux, je sais pas si vous avez écouté Prophets of Rage.
Ouais, c'est pas terrible.
Ah, moi j'ai trouvé ça pas mal. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange entre Rage Against the Machine.
T'as un mec du Wu-Tang, Public Enemy.
Non, il y a Public Enemy et
Cypress Hill.
Insane. Voilà.
Ouais.
Oh, oui. Cypress Hill. C'est sûrement mieux que Blinkin Park.
C'est pas du tout le même
J'ai
style en plus.
J'ai vu une critique dans je sais plus quel journal d'actu qui disait que c'était vachement cool, le concept est super sympa, mais il manque vraiment le chanteur de Rage Against qui avait vraiment.
Zach, mais il va revenir, Zach, avec Donald Trump et tous ces trucs-là, il va se réveiller, il va
mais
revenir.
Oui,
après, je suis pas entièrement d'accord parce que Audioslave, c'est tous les mecs de Rage Against the Machine, mais il y a juste Zach de la Roga qui est pas là, ils ont pris le chanteur de Soundgarden et ça marche plutôt bien.
C'est vrai.
Il n'y a pas la même énergie, forcément, parce que le mec au dread, c'est un
ah
ouf.
Ouais, non, mais c'est ça qui manque, en fait.
Bon, enfin, tant qu'on parle d'art, bon, on va continuer à parler d'art.
Hey, regarde, je suis Picasso. Je fiche pas. Mais c'est de l'art, gros l'art.
Donc, je vais vous parler un petit peu d'art. On va parler d'un sujet assez particulier, c'est la différence entre l'art et le design. C'est deux trucs très particuliers. Alors, je vais commencer par vous demander si vous deviez définir l'art. Alors, c'est la question la plus compliquée du monde et ça a été sûrement des sujets de philo pendant des années. Qu'est-ce que l'art? L'art est-il utile?
Alors, personnellement, je ferais bien justement la différence sur ça. C'est pour moi, l'art est censé être beau et que le design est censé être pratique.
Et
l'art est censé être
quoi.
Beau?
Non, l'art est pas censé être beau.
Ah, bah c'est mon avis, je pense que c'est vrai.
L'art peut être utile pour dénoncer, par exemple, ou
l'art
évoluer.
L'art fait ressentir des choses.
Appelez-moi Francis Débat. Donc, on va parler de la différence entre l'art et le design. Alors, les différences et les points communs, il y en a pas mal. Faut souligner qu'on va quand même généraliser pas mal. C'est un débat qui a encore lieu aujourd'hui entre les designers et les artistes. Si je vais résumer grandement, je dirais que les artistes ne veulent pas être pris pour des designers, mais les designers veulent être pris pour des artistes.
Et les mecs qui sont artistes et designers, est-ce qu'ils sont schizophrènes?
Je n'ai pas la réponse à cette question.
Est-ce qu'on peut dire que les artistes portent des sarouels et les designers des chemises à carreaux? C'est une bonne façon de
c'est un petit peu réducteur. Donc, on va revenir sur le fait que la différence fondamentale entre l'art et le design, ça va être qu'ils sont dotés d'un but ou non. Une œuvre d'art, en fait, elle va plutôt découler d'une idée que va avoir un artiste. Il a envie d'exprimer quelque chose. Il ne va pas forcément y penser avant, mais faire quelque chose. Et ce quelque chose va exprimer une idée. Un designer va pas forcément être maître de son œuvre. Ça va souvent être une commande, par exemple. On va avoir un client qui va commander quelque chose. On a une bouteille ici, par
exemple.
C'est
vrai que designer, c'est assez moderne comme terme, alors que l'art, ça existe depuis, tu sais, genre à
Alors, le terme est moderne, mais pas l'utilisation du design, en fait.
Parce
le design,
designer
c'est...
de marteau, de pierre à silex et compagnie.
Eh oui, mais je te reprends l'exemple de la bouteille ou du verre que tu as là. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce verre?
Eh bien, il est étanche.
C'est un contenant.
Il est étanche. C'est un contenant. Il tient debout.
Oui.
Voilà.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que la surface n'est pas plane.
Par exemple. Et est-ce qu'il est beau?
Il est plutôt stylé, ouais.
Ouais. Est-ce que tout le monde le trouve beau ici?
Bah, c'est une bouteille, quoi.
Mmh. Non, mais regarde. C'est
pas top.
Si tu regardes cette petite bouteille de Duvel.
Non, je viens d'avoir un point de vue intéressant. J'ai Ilias à côté qui vient de dire pas top.
Développe Ilias.
Et là on va plutôt toucher au domaine de l'art. Parce que l'art, c'est une affaire de goût. Et le design, c'est une affaire d'opinion. C'est-à-dire que l'art, on va voir une toile. On va se dire c'est beau ou c'est pas beau. Bah, chacun a sa sensibilité à ce niveau-là. Le design, en revanche, ça va plutôt être une affaire d'opinion. C'est-à-dire est-ce que ça remplit sa fonction ou pas dans le design. Si j'ai un fer à repasser qui a été dessiné et qui tu parlais de fer à repasser tout à l'heure, il a été dessiné, je peux appuyer là pour faire sortir la vapeur, c'est bien pensé, c'est intéressant
c'est
en matière de design, mais il fuit.
Bah, le design n'est pas adéquat.
Le design n'est pas forcément adéquat. Alors, oui et non, parce que le design, ça vient avant la conception. Alors, contrario de l'art, où la conception vient en même temps. C'est-à-dire que c'est l'artiste qui va concevoir son œuvre. Sauf si on est Anish Kapoor, qu'on fait des œuvres de 80 mètres carrés, c'est pas forcément nous qui allons tout faire
avec
nos petites mains.
Qu'est-ce que tu as contre Anish Kapoor ?
Rien du tout. Je veux juste dire que c'est pas forcément lui qui va tout faire avec ses petites mains.
Tu veux simplement demander qui est Anish Kapoor ?
Alors, Anish Kapoor, c'est un artiste qui fait des œuvres assez massives et qui sont hyper intéressantes.
Massives.
C'est pas très audiophile de décrire le travail d'Anish Kapoor, mais je vous invite à aller vérifier.
Il a fait une œuvre au château de Versailles qui s'appelait Le vagin de la reine reprend le pouvoir, et c'était un entonnoir géant. Voilà.
Ça me dit quelque chose.
Mais ça a été tagué avec des propos antisémites dessus.
Tout à fait. Ouais.
Ce qui avait tout à fait rapport.
Sympa, les gars.
Oui.
Merci les antisémites.
Alors, si maintenant je vais vous donner d'autres adjectifs, vous allez me dire si ça vous parle. Si je vous dis que l'un est un talent et l'autre est une compétence. Qu'est-ce que ça vous dit ?
Artiste et artisan.
Putain, ça m'a perfouras, là.
Moi, je suis pas chaud pour aller dans le... Je vous préviens, les gars.
Non, on pourrait dire que l'art est un talent et le design est une compétence parce que, en fait, une œuvre d'art, telle qu'elle est ressentie, ne s'apprend pas. Et là, c'est encore plus flou parce qu'en fait, une œuvre d'art, on va avoir un artiste qui va exprimer une idée qui n'a pas forcément de formation artistique et qui va réussir à montrer ce qu'il veut. En revanche, un designer, s'il n'a pas appris le design, il va être incapable de faire du design.
Il y a ce resserrement à whisky parce que là,
vous comprenez pourquoi je disais que le sujet était compliqué.
Dans l'art, il y a quand même de la technique à la base.
Dans l'art, il peut y avoir de la technique. Mais pas nécessairement.
Pour dessiner
ça,
un visage.
Ça, c'est un sujet de philo, hein, l'art et la technique. T'es pas allé te faire chier.
Oui, c'est ce que j'ai dit, mais en fait, il y a une différence entre la compétence technique de l'artiste et ce qu'il arrive à faire transparaître de son œuvre.
Et est-ce qu'on peut définir la différence entre design et ergonomie ?
Non, parce que je pense que le design et l'ergonomie, c'est quelque chose qui est complémentaire.
Ça va ensemble,
Et puis, ça sera un autre sujet.
D'accord. Du coup, c'est beaucoup plus simple, en fait. Si jamais tu compares l'art et l'ergonomie, là, tout de suite, c'est clair et limpide. Mais le design, ça mêle praticité et agréabilité à observer. Ces mots n'existent pas, je suis d'accord.
Pas forcément, parce qu'il y a des chaises qui sont design, et quand tu t'assois dessus, bah, t'as mal au cul, en fait.
Ah, très bien. Là, on arrive sur quelque chose de concret. Oui, il y a pas mal de petites choses qui les différencient. Il y a une autre phrase que je peux vous relancer, histoire de vous remettre sur la voie. C'est que l'art envoie autant de messages qu'il y a de témoins, alors que le design envoie le même message à tout le monde.
Ah oui, parce qu'on peut pas interpréter un design.
C'est plus difficile.
C'est mets ta main comme ça et regarde avec ton pouce, tu vas appuyer
sur
le bouton.
Exactement. Un design qui a été réussi ne va pas laisser de place à l'interprétation. On est censé comprendre de nous-mêmes ce qu'on est censé faire avec cette chose. Alors que là, on va avoir de l'interprétation. On n'est pas censé deviner immédiatement ce que c'est, sinon l'œuvre est ratée, elle est trop figurative. Tu levais la main, Camille.
Oui, j'ai une question. Alors après, l'art et le design, c'est clairement pas incompatible. Enfin, je sais pas si tu comptais parler ou si tu as entendu parler du Bauhaus en Allemagne. Et clairement, eux, ils font à la fois et de l'art et du design dans les écoles de Bauhaus. Enfin, c'est même le but, du Bauhaus.
Tout à fait. Encore une fois, le but, c'est pas de donner une réponse, mais de lancer la discussion parce que c'est finalement, on peut poser la question à n'importe qui, il va avoir son petit mot à dire.
Ce que j'ai l'impression qui ressort des arguments des uns des autres, c'est que le design ne touche que des objets. Est-ce que je me trompe ?
Oh, pour moi, le design, c'est des objets.
Parce que le design, ça veut dire que ça va toucher une chose, un objet qu'on va utiliser derrière.
Ouais, de la vie courante.
Bah oui, plus ou moins. Enfin, ça peut être une carafe à décanter ou
la chapelle
Sixtine,
c'est pas un truc que tu utilises, c'est un truc que tu regardes, tu admires.
L'œuvre d'Anish Kapoor qui est au château de Versailles n'a pas d'utilité à proprement parler, peut-être décorative, mais le but n'est pas que tu te laves les mains dedans, si tu veux.
Oui, mais ça va quand même toucher un objet dans lequel on pourrait, dans une vie parallèle, utiliser.
Le but, c'est de l'utiliser, c'est pas juste de le regarder, de l'analyser.
Alors que l'art, mais le problème, c'est que l'art peut aussi toucher des objets du quotidien.
Oui, mais du coup, ça, c'est plus un objet, ça devient une œuvre. Du coup, on l'utilise plus en général. Regarde Marcel Duchamp, tu peux pas faire pipi dans son urinoir qu'il a retourné.
Tu pourrais, mais t'aurais des problèmes.
C'est comme en Espagne, quand la femme de ménage avait jeté l'œuvre d'art contemporain parce qu'elle croyait que c'était des déchets.
Je ne comprends pas de quoi tu parles.
Honnêtement, je me souviens plus de l'histoire. C'était il y a 3-4 ans.
Non, j'avais vu cette histoire aussi.
Il y a 3-4 ans et... une femme de ménage était dans un musée, il me semble que c'était en Espagne, et en fait a jeté, je crois que c'était des objets à recycler, une bouteille en plastique, enfin des trucs qui étaient des déchets, ouais, mais de qui étaient exposés.
C'est une maison en Turquie qui est beaucoup arrivée dans le milieu de l'art, même à Paris il n'y a pas longtemps, il y avait, ou à Berlin, je ne sais plus, il y avait une rétrospective de Yves Klein, ils avaient peint le sol en bleu, et il y a un mec qui a marché sur le sol et qui a laissé des traces de ses bottes sur un Yves Klein. Donc juste, le but étant de vous ouvrir sur cette réflexion-là, je vais terminer avec une petite citation de Addison Duval qui dit « Vous concevez pour améliorer la vie des gens de manière qu'ils ne voient pas nécessairement ou ne l'apprécient pas, mais sans quoi ils seraient perdus. Les amateurs d'art qui se pressent autour de Van Gogh au Louvre ont probablement tous leur téléphone et prennent des photos. Ils ne font pas attention à leur application de caméra, mais le concepteur qui l'a créé joue un rôle très important en leur permettant de partager leur expérience avec leurs amis. L'idée étant qu'on va aller voir Van Gogh, on va le prendre en photo, mais la manière dont on le prend en photo, ça, ça relève du design. » Ce sera tout pour moi.
Oh. Magnifique sujet, extrêmement
merci
intéressant.
Moi, c'est pas fini. Après, une fois qu'on a coupé, on boit des bières, on en discute, hein, parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit.
tu peux relancer une idée, si tu veux.
Non, merci.
C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça.
Placement, bravo.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces sujets, que ça vous aura parlé, intéressé, que ça vous aura appris des choses.
C'est déjà fini. Je suis à peine pompette.
Non, mais comme tu le dis, la soirée n'est pas finie. Mais du coup, pour vous, auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, taguer vos amis, votre famille et même votre maman.
Sur iTunes, c'est important.
Voilà, vous pouvez nous donner 5 étoiles sur iTunes et en parler à vos amis pour qu'ils donnent eux aussi 5 étoiles, ça nous fera très plaisir.
On vous donnera 5 chips.
On s'y engage. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, sur notre page Pardon Maman, et nous suivre sur Twitter, sur notre compte @PardonMamanPod. Dans tous les cas, on se retrouve pour un prochain épisode aussi intéressant que vulgaire.
Merci, merci l'ami.
Santé, bonheur, sexe et bonne humeur.
Ciao. C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer.
Ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok?
Génial.
Bravo.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.